autour de la formation, initiale, la formation continue, de la recherche fondamentale, la recherche pratique, du développement économique en lien avec les chambres consulaires autour de ce sujet et du développement des territoires avec effectivement des travaux comme vous les présentez et bien évidemment en lien avec les ARS. Il s'agit à mon sens de générer des programmes innovants d'accompagnement positif dès aujourd'hui avec pour horizon 2035. Autour d'expérimentation pour une société, un département qui devrait et qui sera plus inclusif que sur tous les termes, comme sur la mobilité, le logement ou toute autre idée pour accompagner ce défi de la transition démographique.
Merci. Madame Dréan.
Oui, merci Monsieur le Président. Il y a déjà des questionnements ou des interrogations qui ont été portées déjà par... les deux collègues, donc je vais pas revenir dessus. Il y avait juste une chose, effectivement, lors de la commission 1, j'étais intervenue également pour indiquer que, au travers de la présentation qui avait été faite, il me manquait quelque chose. C'était concernant justement, et Monsieur Marquet en a parlé tout à l'heure, de tout ce qui était les orientations de la solidarité territoriale et solidarité humaine, qui, à mon avis, était qui manquait, on va dire, dans la présentation effectivement de ces scénarios. Pour aller plus loin également, on a très peu parlé effectivement de l'enseignement. On a parlé très peu ou pas du tout de la santé. Anne Le Gagne disait par rapport effectivement au vieillissement de la population, mais tout ce qui concerne la santé, finalement, je trouve que c'est pas forcément indiqué. Alors les collèges, on n'en parle pas, mais c'est vrai que comme on est dans un programme de construction de collèges, on peut imaginer que d'ici 2035, on aura fait ce qu'il faut pour implanter les collèges où ils sont et que finalement les mouvements de population vont aller où effectivement on a les services où il faut et quand il faut. Quand on parle, enfin moi je trouve que ce document il a finalement le mérite d'exister pour poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on a des SCOT qui ont quand même été remis à plat. Pour la plupart, ils vont également la date butoir aussi pour leur application, c'est 2035, sachant qu'un SCOT au bout de 6 ans, on le dit comme ça, qu'il faut le revoir parce qu'il y a des choses qu'on peut maîtriser au niveau des implantations, mais il y a des choses auxquelles on ne peut absolument rien faire. Je vais vous donner un exemple. Quand on parle effectivement qu'on souhaiterait mettre auprès de la métropole ou en fonction des villes moyennes, en fonction des scénarios qu'on veut mettre, l'implantation des entreprises. Or aujourd'hui, finalement, même si on essaye de créer des parcs d'activité dans certains endroits, le choix final n'appartient pas aux collectivités, aux instances qui programment de mettre des parcs d'activité dans tel et tel endroit, mais c'est bien les entreprises qui elles-mêmes choisissent effectivement où elles veulent se mettre. Alors ce serait peut-être intéressant justement d'interroger finalement ces entreprises pour savoir elles aussi par rapport à leur vision du territoire et son développement, comment elles souhaitent le faire, surtout qu'aujourd'hui elles s'interrogent quand même sur un point essentiel, qui est la disponibilité de la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, on est sur un bassin d'emploi qui, heureusement, finalement, on ne peut que s'en satisfaire, qui a un taux de chômage, finalement, assez faible par rapport à la Bretagne et au niveau national. Mais aujourd'hui, les entreprises s'interrogent quand même là-dessus, savoir, je veux bien m'installer, mais est-ce que dans ce bassin d'emploi, on a de la main-d'œuvre qualifiée par rapport à ce que, au poste que je peux proposer, etc. Et on est effectivement, cette réflexion aussi, c'est émanation des élus de différentes structures, etc. Et les concitoyens qui, au travers l'application que vous venez de présenter, vont pouvoir faire remonter leurs remarques, on dirait effectivement, mais est-ce que c'est pas non plus leur faire miroiter peut-être, leur faire remonter et s'exprimer sur plein de sujets, comme on a pu le faire aussi au travers, on voyait les concitoyens se sont exprimés lors des débats et des livres de doléances qui ont été déposés, et de se dire après, bah, finalement, nous le département du Lévilaine, on prend note de tout ce que vous souhaitez, mais ne nous sommes pas compétents sur tel et tel point. La mobilité aujourd'hui peut-être, le transport non, le domaine économique non. Donc voilà, on détient pas ce que disait Monsieur Maillot tout à l'heure, c'est que nous n'avons pas en main tous les champs de compétences pour répondre aux différentes problématiques et que d'autre part, est-ce que ce ne sera pas un document prescriptif parce qu'aujourd'hui c'est le SCOT qui l'est. Il y a les communes également qui mettent en place ou les communautés de communes. Je vous en parle parce que nous sommes la communauté de communes de Bretagne Port de l'Or, nous venons d'arrêter notre PLUIH et sur lequel on a mené cette réflexion globale de tout ce qui était service, implantation d'entreprises, l'habitat, où est-ce qu'on veut le mettre, etc. Donc ce qui veut dire que demain, s'il faut remettre tout à plat, voilà, je m'interrogeais sur la partie opérationnelle que l'on va donner ensuite au travail qui va être fait à l'issue des scénarios qui vont être retenus. Voilà, merci.
Merci, Madame Le Callennec. Donc, Madame Courtail apportera des compléments sur les questions vieillissement qui ont été évoquées. Donc, Madame Le Callennec.
Oui, merci, Monsieur le Président. En complément de mes collègues, plusieurs points. Vous disiez que vous aviez intégré les évolutions en matière de climat et de vieillissement. Vous y reviendrez. Il y a quelque chose qu'à mon avis, vous n'avez pas suffisamment pris en compte, c'est les moyens financiers dont vont disposer les collectivités, surtout si elles sont amenées à intervenir de plus en plus, parce que, par exemple, dans le scénario 2, vous insistez sur le interventionniste. Donc, à l'avenir, quid des moyens dont les collectivités vont disposer pour mener leur politique publique? Ça, c'est la première chose. Et deuxième point, l'organisation territoriale. Là aussi, il risque d'y avoir des évolutions et on ne résoudra pas les problèmes qui se posent et les défis qui sont devant nous de la même manière si l'organisation territoriale est amenée à changer. Or, il y a des évolutions à attendre. Sur le premier scénario, est-ce qu'on s'est un peu penché, même si effectivement l'économie n'est pas dans la compétence des départements, sur la question des emplois non pourvus? C'est un vrai sujet et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Nadine Dréhan. On n'en parle pas assez et je trouve que c'est à l'occasion de démarches comme celle-là qu'on doit vraiment insister sur le sujet. Deuxième élément, l'industrie, la part de l'industrie. C'est l'industrie qui pourvoit les services. Et donc, quelle est la part de l'industrie et demain l'industrie dans notre pays et dans notre département en particulier, sachant que de plus en plus d'entreprises, d'Ille-et-Vilaine, sont des entreprises propriétés d'entreprises étrangères ou à capitaux étrangers, ou parfois fonds de pension, donc délocalisables sans trop de difficultés. Donc l'économie, elle peut s'avérer fragile dans notre département, et je reste sur notre département. Et sur le deuxième scénario, vous disiez, si les grandes filières se maintiennent, mais qu'est-ce qui arrive si les grandes filières, justement, dans notre département, qui ont fait la richesse et le développement sur la métropole rennaise, à Vitré, à Fougères, à Redon, se fragilisent, c'est une vraie difficulté. Moi, j'aurais une question sur la consultation des habitants. Je rejoins ce qui a été dit encore. On va les interroger sur l'économie, sur l'environnement, certes, sur les mobilités, parce qu'on est responsable des routes, mais quid des sujets sur lesquels on est compétent? La petite enfance, les collèges, donc l'adolescence, la protection de l'enfance, l'insertion, les personnes âgées, les personnes handicapées. C'est là-dessus qu'on doit interroger les habitants de notre département, puisqu'on est le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Et dernier point, c'est sur la Brailloscope. En fait, on dit dans le document que ça va être complémentaire comme démarche. Et vous insistez bien, et j'espère que ce sera vrai jusqu'au bout, que Ille-et-Vilaine 2035 ne sera pas prescriptif. Or, Brailloscope, il ne vous a pas échappé que le 6 avril à Pontivy, le président de la région a appelé à un engagement des collectivités locales. Moi, je rappelle la libre administration des collectivités. En principe, il n'y a pas de tutelle d'un département sur une EPCI ou d'une région sur un département. Donc, comment les choses vont s'articuler vraiment dans les faits, sachant que les élus, les maires, les présidents de PCI sont systématiquement invités, un coup par la région, un coup ça va être le cas le 13 mai, pour évoquer toujours les mêmes sujets. Donc, on parle de complémentarité, mais à un moment donné, nos collectivités, elles ont des compétences, elles ont des moyens pour les exercer. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler alors qu'on a des sujets très concrets à régler? On évoquait ce matin, par exemple, celui des mineurs étrangers, où on va sans doute en parler avec Madame Courtail, le vieillissement de la population qui nous impacte directement. Voilà, c'est un peu là-dessus que moi je sais intervenir. Attention à ne pas rester dans les concepts, parce qu'on a des problèmes à résoudre très concrets. Quand on exerce des permanences et qu'on écoute nos concitoyens, ils nous posent des questions très, très concrètes. Voilà, merci.
J'avais commencé par dire, en évoquant les dossiers qu'on aurait, qu'à la fois nous avons cette exigence de quotidienneté et de proximité, mais que nous avons aussi le devoir de la prospective et du long terme. Alors, il y avait Monsieur Benoît, puis Madame Courtel.
Merci, Monsieur le Président. Bien, voyez, mon intervention est exactement dans le droit fil de mes précédents collègues. Alors, naturellement, Monsieur le Directeur, Monsieur le Vice-président en charge de cette réflexion, il est toujours intéressant de se projeter, de planifier, d'essayer d'imaginer ce que doit être notre avenir. Oui, Monsieur le Président, ce matin, vous avez commencé l'ouverture de la session du Conseil départemental en rendant hommage à Claude Champeau. Et vous avez fait notamment référence aux travaux et à la part qu'il a pris dans les travaux du CELIB, le Comité d'études et de liaison des intérêts bretons. Il y a de cela 1950, ça fait donc 70 ans pratiquement. Et je trouve que c'est intéressant parce que déjà à cette époque, lorsque le CELIB travaillait pour, notamment pour préfigurer le plan routier breton, c'était pour relier les territoires bretons entre eux et les arrimer naturellement à l'armature nationale. Et moi je suis convaincu que parmi les réflexions, là il nous a été présenté donc différentes options. Monsieur le directeur, vous nous avez dit tout à l'heure, le scénario 1, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire ce serait une amplification de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une certaine concentration du dynamisme et des activités sur la métropole, avec un rayonnement sur les territoires périphériques, mais comme vous l'avez dit, avec un modèle de haute qualification qui concentre les emplois qualifiés sur le centre du département, c'est-à-dire sur notre ville, préfecture, notre ville métropole. Le scénario 2, vous avez dit, les campagnes restent à la périphérie du territoire. Et enfin, le scénario 3, je l'analyse comme la décroissance, vous avez dit, c'est le lâcher prise aux initiatives locales. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut, on s'aime entre nous, c'est pas peace and love, monsieur le vice-président, mais vous avez dit, il y a un risque, le scénario 3, il y a un risque, il y a même un risque de repli identitaire. Et je partage ce point de vue. Moi, je suis, comme un certain nombre de mes collègues, convaincu que la réflexion départementale doit impérativement embrasser la réflexion régionale. Pour plein de raisons, mais pour une raison essentielle, parce que nous avons une région Bretagne à forte identité. Souvenons-nous que nous sommes une des rares régions de France qui n'a pas été redécoupé par le malheureux redécoupage de la carte des régions du président Hollande, avec la région Centre-Val de Loire et la région des Pays de la Loire. La région Bretagne est une région qui a été, je dirais, de ce point de vue, préservée. Et c'est une chance, moi je considère que c'est une chance, parce que c'est à nous, Bretons, d'essayer d'imaginer quelle peut être ou quelle doit être la meilleure organisation. Et je rejoins totalement ce que vient de dire Isabelle Le Callennec. Il faut absolument que parallèlement à cette vision et au rôle que l'on doit attribuer au territoire, moi je pense que les décennies qui vont venir, qui s'ouvrent, elles doivent privilégier la possibilité pour les territoires de se réaffirmer. Mais dans le même temps, comme dirait notre cher Emmanuel, notre président de la République, dans le même temps, ce débat doit obligatoirement s'accompagner d'une réflexion sur l'organisation institutionnelle territoriale en Bretagne. Un bon nombre d'élus ici, et je dirais même quasiment tous, ont connu l'avènement des lois successives de décentralisation depuis les années 81-82, avec le rôle qui reste accru pour les communes, le rôle qui s'est amplifié pour les départements en partenariat avec l'État. Et depuis quelques années, nous avons un accroissement du rôle des intercommunalités, du rôle des régions en complicité avec l'État et un autre partenaire qui est l'Europe. Et donc moi je suis convaincu qu'il faut que nos territoires, et la Bretagne elle est bien construite pour ça, parce que à côté de ces trois métropoles, Brest, Rennes et Nantes, nous avons tous nos réseaux, notre réseau de villes moyennes. Alors je mets Nantes parce que je trouve que dans la réflexion, d'ailleurs ça figure sur les cartes que vous nous avez présentées, monsieur le directeur, les interactions avec les territoires voisins et notamment avec le pays nantais. Et donc je pense que ça c'est quelque chose qui est nécessaire de réfléchir. Le rôle des villes moyennes qui irriguent les territoires et, je dirais, une réaffirmation et un retour en force des territoires à travers le rôle qu'on l'on peut confier aux villes moyennes. Avec, aux côtés de la réflexion institutionnelle territoriale, pour moi, et ça a été dit notamment lorsque Nadine Dréan a évoqué les ARS, les agences régionales de santé, c'est la présence de l'État dans les territoires. Moi, je vis dans un arrondissement, l'arrondissement Fougères-Vitry, où nous avons encore la chance d'avoir une présence de l'État avec un sous-préfet en exercice et des services de l'État. Et lorsqu'on parle des entreprises, eh bien, je trouve que dans un arrondissement, si l'État est présent, notamment en termes de développement et d'accompagnement stratégique, notamment sur l'emploi, la formation et l'économie, eh bien, on voit bien qu'il y a là un intérêt particulier, y compris pour des grands groupes, pas que pour des groupes de taille familiale, pour rester, pour se développer, pour s'implanter dans nos territoires périphériques. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est important. Et puisque je parlais de l'organisation institutionnelle territoriale, vous avez eu, les exécutifs territoriaux, la possibilité de présenter une vision de ce que peut être ou de ce que pouvaient être les institutions territoriales dans notre département. C'était le rôle que vous avez tenu dans la commission départementale de coopération intercommunale. Moi, j'avais une vision qui est claire, et je vais la rappeler ici, et je vais vous reporter à la page 10 de notre document, qui n'a rien à voir avec le sujet qui est le nôtre, mais en même temps, page 10, on présente les travaux et les programmations donc dans les 10 d'Ille-et-Vilaine. Et cette carte, elle est intéressante parce qu'elle présente les 6 grands pays géographiques d'Ille-et-Vilaine, le pays de Saint-Malo, Fougères, Vitré, Redon, Montfort, Brocéliande, et qui entoure le pays de Rennes. On voit bien que là, on a la préfiguration, et c'est la même chose, Monsieur le Président, pour le projet que vous avez porté avec Jean-Louis Touraine, lorsque vous avez imaginé la construction des agences départementales dans les territoires. Vous avez voulu irriguer les territoires de l'administration départementale. Donc ça préfigurait d'une vision. Et je trouve qu'il n'y aura pas d'avenir des territoires s'il n'y a pas une vision et une proposition claire d'organisation nouvelle des intercommunalités. Certains départements en Bretagne l'ont fait, hein, les Côtes d'Armor. Regardez, ils ont une belle agglomération autour de la ville de Dinan. Ils ont fait 5-6 agglomérations par pays. Et je boucle mon propos avec les travaux du CELIB, parce que les travaux du CELIB privilégiaient à l'époque, en 1950, les pays, les 21 pays bretons. 21 pays bretons avec lesquels la région a toujours contractualisé à travers la politique régionale d'aménagement du territoire, PRAT, ça c'était à l'époque d'Yvon Bourges, et à travers aujourd'hui les contrats de partenariat Europe-Région-Pays, dont on arrive au terme, puisque la région maintenant a fait le choix de contractualiser aussi avec les intercommunalités, mais qui sont à taille totalement différente. Quel est le point commun entre une intercommunalité qui s'appelle Couesnon-Marchand de Bretagne, dans le Coglay-l'Entraînais, Rennes Métropole ou Liffré-Cormier? Et elles sont tous les trois vocation à fédérer des territoires. Mais on voit bien qu'il y a là un sujet qui n'est pas achevé. Nous sommes au milieu du guet de quelque chose. Et donc je trouve que la réflexion, monsieur le vice-président, monsieur le directeur, la réflexion que vous venez de nous présenter, elle doit nous préparer à ce que doit être notre armature territoriale dans les quelques années qui vont venir. Et je trouve que la Bretagne devrait être expérimentatrice, si je puis dire, en termes de nouvelle organisation institutionnelle pour le bien, eh bien des enjeux que vous avez identifiés, c'est-à-dire le défi énergétique, le défi climatique et celui du vieillissement.
Monsieur Benoît, j'ai découvert avec attention que vous faisiez partie du cercle restreint de ceux qui appellent le président de la République par son prénom, mais c'est un privilège relativement contingenté, me semble-t-il, mais vous en êtes, c'est très bien. Alors, Madame Courteil.
Oui, je ne vais pas faire les réponses à la place de Monsieur le Vice-président, qui le fera très bien. Je voulais juste réagir sur le propos plus d'Anne Le Gagne, mais du coup, j'ai écouté avec attention toutes les interventions et je me dis que l'exercice est quand même fort utile parce qu'il soulève des questions. L'autre réflexion que je me fais, c'est que je me demande s'il n'y a pas un peu de confusion parce que on est quand même sur certains éléments qui ont été cités, pas tous. On est sur un exercice prospectif, c'est compliqué. Hein. On n'est pas sur régler les problématiques actuelles de demain, mais plutôt après-demain. On est quand même sur une perspective plus large. C'est pour ça que je voulais réagir. Donc, d'une part, pour rappeler, mais ça a été redit à la fin du propos de Monsieur Benoît, que en fait, si le vieillissement, il a bien été repéré, puisque Monsieur le directeur l'a dit en début de propos. C'est un des enjeux qui figure, c'est l'enjeu qui figure dans les trois scénarios. Alors peut-être qu'il est mal perçu, mais n'empêche qu'il est présent. Donc je le redis. Et concernant les quelques éléments qui ont été soulevés, rappelez que comme on est sur un exercice prospectif, on doit être sur quelque chose de plus global et peut-être moins précis que ce qui a été évoqué, qui par ailleurs est travaillé. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on doit avoir en tant qu'élu, cette capacité à se projeter dans le temps de manière lointaine pour anticiper, parce que c'est quand même la différence entre une gestion, on va dire classique d'une problématique et puis le cœur de métier, je vais dire, de l'élu qui doit se projeter. Sinon, voilà, le politique, il est fait pour ça. Et donc, sur ces questions de rapprochement plus spécifique sur des enjeux autour de la prise en charge du vieillissement, je rappelle juste qu'il y a déjà des choses qui sont en cours, notamment avec la région, parce que ça a été cité. Et que ça fait l'objet d'ailleurs d'une présentation. Il y a une démarche qui a été présentée la semaine dernière à laquelle je n'ai pas pu assister parce que j'ai des petits soucis de santé. Mais je voulais juste le redire. Quoi. Je pense qu'il faut. Enfin, peut-être que c'est clair pour tout le monde, mais moi, en tout cas, ça me semblait utile de rappeler qu'un exercice prospectif, c'est même pas un projet, un projet stratégique. On est au-delà de ça et donc on ne répond pas à des questions du moment. Mais cette capacité à se projeter doit ensuite mieux nous éclairer pour, dans un autre temps, traiter les questions, les problématiques actuelles et de demain. Voilà, merci.
Merci, monsieur Marquet.
Oui, merci. Ma collègue a déjà répondu à ce à quoi je voulais répondre, mais je pense qu'il y a des éléments de précision que je redonnerai la parole à monsieur Ruiz pour apporter quelques précisions sur, ou au moins contribuer au débat sur des questions économiques que vous avez soulevées. Je pense à la question du scénario 1, je le mentionne, puisqu'il a été question effectivement de ce scénario comme étant le scénario tendanciel, mais je pense qu'il est important qu'on y revienne, en particulier pour bien repréciser la notion de corridor de développement, la notion de grande filière de développement, les risques effectivement économiques qui ont été mentionnés là-dessus. Je crois qu'il y avait d'autres questions, je crois qu'on a identifié ensemble sur le plan économique qui serait intéressant de voilà. Donc du coup, on fera un traitement spécifique là-dessus. Je juste reprendre la parole sur effectivement la généralité. C'est évident que vous ne pensez pas ce que je veux dire. Vous ne pensez pas ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous ne pensez sûrement pas que la prospective, ça sert à rien. Vous ne pensez sûrement pas que on devrait plutôt se concentrer sur des questions précises. Parce que finalement, ce qui est important, c'est le concret, c'est la réalité, c'est le maintenant et c'est pas pour l'après. Je suis sûr que vous ne pensez pas ça. Et je suis sûr que vous ne pensez pas non plus que, finalement, c'est trop bien gentil tout ça, mais finalement, on ne se pose pas les bonnes questions. Et que, finalement, peut-être que finalement, vous n'avez pas de vision de long terme. Je dis ça, ce n'est pas pour vous provoquer les uns et les autres. Hein. C'est parce qu'en général, c'est les questions qu'on oppose toujours à une démarche prospective. Et on dit toujours, ça sert à pas grand-chose, occupez-vous plutôt des sujets qui sont les sujets de maintenant, laissez aux autres répondre sur des sujets qui sont leurs sujets à eux, mêlez-vous de vos affaires, ne vous mêlez pas des affaires des autres. Je dis ça sans esprit de polémique aucune. J'ai professionnellement pratiqué souvent des exercices de prospective dans mon domaine de compétences, et c'est toujours ce genre d'obstacle que nous avions à gérer. Et je pense qu'il faut qu'on réaffirme, effectivement, et là je partage le point de vue exprimé par M. Mailleux dans son intervention, tout dépend pas de nous, hein, vous l'avez dit très explicitement, mais c'est pas pour ça qu'on doit pas avoir un avis et prendre part aux discussions des autres. Et je crois que l'exercice de prospective, il sert justement à tenter de se construire une vision partagée. Tenter, je dis bien, hein, parce que, bon, consensus, c'est pas forcément au bout du chemin, mais au moins de tenter de se construire une vision partagée entre nous, de la partager avec d'autres acteurs qui sont pas forcément dans nos champs de compétences. Vous savez, quand on a réuni les 60 ou 70 personnes qui ont travaillé à l'atelier où il y avait le président de l'Union des entreprises, le responsable syndical FO ou le directeur de tel établissement, ou voire y compris le directeur de l'Orchestre de Bretagne, encore que là, c'est nos affaires. C'est vrai qu'à la limite, il y en avait des tas de gens ici, dans ce groupe-là, qui n'étaient pas dans nos domaines de compétences. Mais je crois que tout l'intérêt d'une démarche prospective, c'est de faire en sorte à la fois qu'on soit dans un effort tendu vers la construction d'une vision de l'avenir, et en même temps un effort de partage de cette vision, ou des éléments de cette vision, de ce qui contribue à la nourrir, à la construire, avec d'autres qui ne sont pas forcément dans nos sphères d'influence immédiate. C'est ça l'intérêt d'une démarche prospective. Alors, c'est un jeu d'influence, c'est sûr, c'est certain. Et on se mêle souvent de sujets qui ne sont pas les nôtres, sur lesquels on n'a pas forcément un domaine de compétences immédiat. Mais c'est tout l'intérêt d'une démarche prospective. Mais je pense que ça, vous le partagez tous, sinon on ne ferait pas cette discussion cet après-midi. C'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'effectivement, vous avez posé la question de l'articulation avec la région. C'est effectivement une bonne question, parce que la région a effectivement démarré dans la démarche Briscope, et a aussi pour souci d'élaborer un schéma de développement régional autour du SRADET, donc avec un contexte beaucoup plus réglementaire, je dirais, qui peut s'imposer à nous collectivement, en tout cas au sein des collectivités. Bien sûr qu'on est engagé aussi dans cette démarche, c'est-à-dire que c'est pas du tout en parallèle qu'on opère notre réflexion. Moi, j'ai rencontré à plusieurs reprises la vice-présidente en charge de ce dossier au niveau de la région. On a échangé sur nos démarches respectives. On a pointé nos sujets d'intérêt commun, sur quoi il sera important que le département contribue dans le cadre de la réflexion Briscope. Nous participons à toutes les rencontres territoriales sur le territoire en participant à l'ensemble des réunions qui sont organisées par la région. La région participera à notre rencontre collective du 13 mai pour apporter aussi son point de vue, hein, dans sa cohérence régionale. Donc voilà, je crois que là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça se fait en parfaite intelligence. Nous contribuerons bien évidemment à l'appel. On l'a fait, je pense que c'est en cours, hein, pour trouver à quel stade on en est dans la rédaction, mais en tout cas, effectivement, dans les engagements qui sont sollicités, nous contribuerons, cette fois-ci, évidemment, en mentionnant plus explicitement nos domaines de compétences. Le président, d'ailleurs, a particulièrement insisté là-dessus, en particulier dans son dialogue avec le président de région, pour que, effectivement, chacun, dans le cadre de ses responsabilités et de ses compétences, nous puissions nous exprimer dans le cadre de cet appel fait à engagement de la région, et aussi en valorisant ou en proposant des pistes de travail en ce qui nous concerne, à l'initiative du département de l'Ille-et-Vilaine, soit autour de ses compétences, soit éventuellement avec un petit peu d'élargissement. Donc ce travail, effectivement, de cohérence, on essaye de le faire en bonne intelligence avec la région, je voulais le préciser, et avec aussi des sujets qui pourraient être des sujets d'expérimentation pour nous. Vous savez que nous sommes quand même très bien outillés en matière d'ingénierie. C'est un enjeu, hein, pour l'avenir. C'est l'enjeu de maintenant, mais c'est aussi l'enjeu des prochaines années, des prochaines décennies. La capacité à construire des projets, à mettre en œuvre, à organiser, à manager des projets est une compétence qui n'est pas forcément également distribuée sur le territoire. Nous avons la chance, effectivement, au niveau du département, d'avoir des compétences là-dessus, une organisation très territorialisée autour de nos agences, avec un rôle de conseil important auprès des communes en particulier, et de certains EPCI qui ne sont pas outillés forcément. Et donc ce rôle-là d'ingénierie est un rôle sans doute à développer et on peut jouer un rôle important vis-à-vis des autres collectivités, y compris de la région, par rapport à cette question de l'ingénierie, plutôt de réinventer des ingénieries dans tous les territoires et dans tous les échelons de collectivités. Donc voilà, pour vous donner juste un exemple précis, là je suis revenu dans le court terme, mais on est déjà un petit peu dans le court moyen terme. C'est une vision effectivement de la répartition des rôles et la capacité que nous avons les uns et les autres à faire pour les autres. Et ça, je crois que ça répond aussi peut-être à la question, quelques questions de M. Benoît. Sur les scénarios, juste dire attention, les scénarios sont là, sont vraiment des outils de travail. C'est pas plus que ça, M. Kalanek. Ils sont pas en exemple les uns les autres. C'est juste pour avoir des situations contrastées qui servent à réagir. Et de ce point de vue-là, je pense que la réaction de M. Benoît et la vôtre d'ailleurs aussi était tout à fait intéressante, puisque dans ce scénario, vous avez bien mentionné ce qui vous semblait, vous, extrêmement important et qui est une des questions qui est posée, effectivement, pour les décennies qui viennent, enfin, pour les années qui viennent, on va dire, qui est celle de comment on s'organise territorialement en termes d'armature territoriale, sur quoi on fait reposer notre développement commun. Est-ce que, et c'est la spécificité sans doute du scénario 2, c'est de faire le pari d'une organisation territoriale autour d'une armature territoriale s'appuyant beaucoup sur des villes moyennes et sur des bassins de vie qui organisés et qui ont une cohérence d'organisation. Mais toute la difficulté, c'est la cohérence d'organisation. C'est précisément de renvoyer effectivement à des outils de gouvernance qui permettent aux uns et aux autres d'être en harmonie, d'une certaine façon, d'être en cohérence. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, les travaux qui sont conduits dans les SCOT, ou plutôt dans l'inter-SCOT, nous intéressent profondément. Et ça fait partie des sujets sur lesquels on va essayer d'une certaine façon, à notre échelle, parce qu'après tout, c'est pas notre responsabilité de les élaborer, donc c'est d'une certaine façon plus confortable aussi, mais aussi d'être en capacité de dire ce que nous en pensons, et de jouer là aussi ce que vous avez très bien identifié, Monsieur Mailleux, c'est-à-dire notre capacité d'influence. Parce que finalement, c'est de ça dont il s'agit, c'est d'être en capacité d'influence. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a essayé d'éviter aussi des débats sur, et je vois bien, naturellement, les uns les autres, mais tous mes collègues, d'ailleurs, quelle que soit que ce soit minorité ou majorité, pourraient nous ramener sur des questions de, vous faites l'impasse sur le budget, vous faites l'impasse sur l'organisation politique, etc. On a voulu éviter, accordez-nous au moins ça, dans un premier temps, qu'on se concentre sur cette discussion-là. Sinon, je pense que ça aurait été assez vite stérile. On aurait débattu sur le sexe des anges, sur de savoir s'il faut organiser politiquement les départements comme ça, s'ils doivent être représentés comme ça, etc. Bien sûr que ce débat-là, à un moment, il arrivera, mais il arrivera pas par nous, il arrivera ailleurs. Donc voilà, c'est un élément de facteur externe qu'il nous faudra intégrer à un certain moment, mais on a essayé de faire en sorte qu'on ne le mette pas dans le débat d'emblée, sinon je pense qu'il nous aura stérilisé l'ensemble de nos discussions. Voilà, c'est un peu ça le sens. Bien sûr, il y a un certain nombre d'enjeux qui, vous les avez mentionnés et je les partage totalement. La question de la démographie, alors évidemment, dans une présentation comme on a fait là, c'est exercice, c'est pas facile parce que les éléments de diagnostic, je vous encourage à les reprendre. On éditera d'ailleurs l'ensemble des fascicules. Alors, un fascicule diagnostic, un fascicule des scénarios et des réactions et le fascicule du scénario projeté. Mais évidemment, tous les enjeux sont démographiques, sont extrêmement importants. Les enjeux du vieillissement sont essentiels. Et vous connaissez mieux que moi les chiffres, d'une certaine manière. Le vieillissement, la tranche d'âge avec plus de 80 ans, croît 4 fois plus vite que les autres. Donc évidemment qu'il y a un moment, ça va avoir une incidence forte. Les changements climatiques vont avoir une incidence forte aussi en termes de répartition de l'activité. Probablement, ou tout au moins, il y a des potentiels risques ou bénéfices, d'ailleurs. Enfin, ça peut jouer dans les deux sens. Donc, bien évidemment, ces enjeux-là, ils sont extrêmement présents dans les scénarios. Et le scénario final, il ne peut que intégrer cette considération-là. Et il devra, et c'est là, je ne vais pas répondre à toutes les questions, parce que c'est sans doute un peu compliqué, mais nous devrons, effectivement, faire le mouvement du va-et-vient entre cette vision stratégique moyen-long terme, quand je dis moyen-long terme, c'est généralement qu'à l'échelle de 20 ans, pas non plus exagéré, avec la nécessité d'élaborer nos outils et d'adapter nos outils d'intervention et nos politiques d'intervention. Évidemment que ça renverra l'ensemble de l'Assemblée départementale dans des échéances futures à des débats sur l'élaboration de certains nombre de politiques ou d'organisation de certains schémas de développement. On aura un premier exercice d'ailleurs autour de ça qui va se concrétiser d'ici la fin de l'année quand il s'agira de parler du programme d'habitat, local d'habitat, avec mon collègue Marcel Rougemont, et ça aura évidemment des incidences par rapport à ce qu'on est en train de discuter là, sur la manière d'organiser la répartition de la population, parce qu'on y contribue effectivement par une politique d'habitat. Comment on contribue ou pas au développement de certains bassins? Où est-ce qu'on met les priorités? Donc évidemment que là, il va y avoir une première traduction immédiate de la réflexion que nous sommes en train de mener. Et puis il y en aura une deuxième qui est évidente aussi dans les mois qui viennent. C'est lorsque nous aurons à débattre de notre schéma de mobilité avec notre stratégie 2025. Ça ne sera pas du tout déconnecté de la façon dont on appréhende notre futur. Sinon, ça n'aura aucun sens. Comment on organisera cette mobilité 2025 pour prendre en considération des nouveaux paramètres qu'on aura évoqués? Comment on intégrera les déplacements doux? Comment on construira une nouvelle politique de mobilité dans le cadre de nos compétences, bien évidemment, mais aussi en interaction avec ce que font les autres? Bien sûr que là, il y aura des exercices concrets qui se positionneront dans le calendrier. Et il y en aura bien d'autres sur les politiques sociales, sur un certain nombre d'autres politiques dans les mois ou années qui viennent, et en fonction aussi des prochaines échéances, mais c'est une autre histoire de fait. Mais là, on sera effectivement dans des démarches beaucoup plus opérationnelles, avec des traductions autour de définition de leviers d'action et de politiques d'intervention. Alors évidemment, s'il n'y a pas de catastrophe d'ici là, si les moyens des départements sont encore possibles, et si jamais si on n'a plus ces moyens, ben, ça n'empêche que les problèmes sont toujours là. Et il faudra bien que, d'une certaine manière, quelqu'un les prenne à bras le corps. La question l'équilibre territorial, quel que soit le contexte institutionnel dans lequel on se situera, quels que soient les moyens dont disposeront les uns les autres, de toute façon, la démographie, les questions démographiques, les questions climatiques, les questions de mobilité, et bien d'autres questions, de toute façon, elles demeureront. Donc, quel que soit le contexte institutionnel, il faudra bien d'une manière ou d'une autre que les uns et les autres nous organisions dans nos organismes respectifs ou collectivités respectives pour les prendre en considération. C'est aussi à cela que nous souhaitons, c'est dans ce cadre de ce débat-là que nous souhaitons effectivement faire cet exercice de prospective. Voilà, par contre, je pense qu'il y a quelques questions précises. Je pense que c'est important d'apporter des éclairages sur la politique industrielle, les leviers forts du développement économique territorial actuellement autour des grands secteurs. Qu'est-ce qu'on entend par haute valeur ajoutée? Parce que je pense qu'il y a un débat. Et puis, peut-être clarifier un peu, je pense que c'est important à ce stade-là dans le débat sur le rôle des métropoles et la notion de réciprocité, les différentes fonctions des métropoles et différents exemples de métropoles sur le territoire hexagonal. Pardon. Voilà. Monsieur Barra, il va prendre le relais.
Alors, un complément, mais dans un temps relativement compact, parce que le temps passe.
Oui, en quelques mots, parce que le sujet de l'économie, et notamment des filières existantes, a été pointé par un certain nombre d'intervenants. Monsieur Maillieu, vous avez évoqué le risque de confusion entre haute valeur ajoutée et qualité. Madame Le Callennec, vous avez évoqué la question de la part de l'industrie, ce qu'elle peut induire en termes de services. Qu'est-ce qui se passerait si les grandes filières se fragilisaient en termes sur l'emploi du territoire et sa richesse? Et Monsieur Benoît, si je ne me trompe, vous avez évoqué le fait que les scénarios présentés, notamment sur le maintien et le développement des grandes filières majeures du territoire, se traduisaient par une concentration forte sur la métropole de l'activité, de l'emploi, etc., et de la richesse. Même si derrière, je crois que vous l'avez dit, il y a des effets de ruissellement à attendre, mais c'est pas forcément ce que les territoires privilégient. Donc, un mot d'explication là-dessus. L'idée, et c'est notamment celle du scénario 1, c'est les grandes filières majeures qui sont soumises à des mutations très fortes à l'échelle mondiale, hein, l'automobile, il n'y a pas besoin de se faire un dessin, se positionnent dans un scénario comme celui-là sur les segments créateurs du maximum de valeur ajoutée dans la chaîne de valeur. Où est-ce qu'elle se situe, la valeur ajoutée? Elle se situe dans l'innovation, la capacité à innover, à devancer les besoins des marchés, et elle se situe dans la relation client. La production, elle, n'est pas celle qui produit le plus de richesse aujourd'hui. Alors, là, l'idée, c'est que le territoire et les entreprises investissent un maximum en s'appuyant sur la force de recherche du territoire qui est remarquable pour justement bien se positionner sur ces segments-là. En même temps, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas de production. parce que on voit bien qu'une des hypothèses qu'on utilise en économie, c'est celle du reshoring, c'est-à-dire le fait que là, ce qui était un facteur majeur de délocalisation de l'économie, le coût de la main-d'œuvre s'atténue de plus en plus. La part de la main-d'œuvre dans les coûts de production devient, non pas marginale, j'exagérerai, mais devient moins déterminante. Donc il y a des hypothèses de réindustrialisation des territoires. Et là, avoir des grandes filières ici est une chance supplémentaire pour le territoire. C'est en cela qu'elles peuvent être moteurs. Alors effectivement, si elles ne rebondissent pas sur l'innovation, si elles réagissent pas, ce qui n'est pas le cas, hein, il y a une vraie question, c'est que deviennent les emplois qui sont derrière. L'agroalimentaire, c'est 77 000 emplois. L'automobile, c'est plus de 30 000 emplois. On voit bien là les secteurs majeurs que ça porte. Alors il y a des scénarios où elles sont plus en tête, mais parce qu'on change de modèle de développement économique. Il y a un vrai risque derrière, hein, mais on change de modèle. Avec peut-être aussi des risques de repli. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, toujours sur l'économie, vous évoquez, Monsieur Benoît, cette concentration sur les métropoles. Dans le diagnostic qui a été élaboré et validé par votre assemblée, on a évoqué les corridors de développement. Il y a la métropole et il y a trois grands corridors de développement. Il y a Vitré-Fougères sur l'agroalimentaire, il y a Saint-Malo, Rennes, enfin tout cet axe-là qui a un autre corridor de développement, et il y a Redon et une autre partie qui est plus sur l'automobile. L'idée là, c'est que il y a effectivement une locomotive qui est la métropole et il y a une diffusion très forte de l'activité économique sur ces corridors qui jouent les valeurs fortes de ces territoires, leur capacité à accueillir de la production, de l'innovation et tout. C'est d'ailleurs accompagné dans le scénario par des efforts de formation, voire d'implantation de laboratoires de recherche sur ces corridors. Donc on n'est pas sur un système tout pour la métropole, rien pour le reste, quoi, et uniquement des effets de ruissellement. Ça, c'était sur la question de l'économie. Deuxième point sur lequel je voulais réintervenir, c'est celui qui évoque le vieillissement. Le vieillissement, c'est vrai que c'est un vrai sujet et il a nourri beaucoup de nos débats avec la question derrière relative aux capacités des collectivités à prendre en charge, en fonction de leurs moyens, de leurs ressources, les populations les plus fragilisées par ce vieillissement. C'est vrai qu'on l'a traité plutôt sous l'angle la capacité du département à continuer à être attractif pour les jeunes populations, les jeunes qui arrivent aujourd'hui. On est un territoire, vous êtes un territoire très jeune, avec un solde naturel très positif. Le vieillissement existe, mais il est nettement moindre que celui qu'on constate dans d'autres territoires. Donc derrière là, la question du vieillissement, c'est pas que comment on traite la question des personnes vieillissantes, mais c'est comment on reste attractif pour avoir un flux de population jeune qui permette ce renouvellement démographique, qui crée de nouvelles richesses et qui donne davantage de moyens au territoire pour absorber et traiter la question du vieillissement. C'est d'ailleurs aussi dans certains scénarios l'idée qu'il y ait des pactes avec les entreprises ou, sur le dernier scénario, la capacité de jouer davantage la solidarité familiale interrelationnelle pour prendre en charge les familles et les questions du vieillissement. Tout n'est pas forcément du ressort du public. C'est ce qu'évoquent les scénarios dans les hypothèses qu'ils présentent. J'avais un dernier point sur, mais c'est plus du détail. J'ai pu dans mon exposé dire que dans le scénario 2, la campagne, c'était un peu le résiduel, hein, Non, je l'ai mal expliqué. La campagne, c'est sous l'angle espace, réserve naturelle. La campagne, espace de production agricole, il est totalement intégré dans le système de production. C'est tous ces grands espaces. On a quand même une industrie agroalimentaire des productions primaires en agriculture extrêmement forte. Et celle-là, il ne s'agit pas de tirer un trait dessus et de les laisser au profit d'autres types d'activités. Dernier point, et je rejoins là M. Marquet, sur l'articulation avec la Brescop, et je m'arrêterai là. Vous dites, Madame Le Callennec, que toutes les collectivités sont sollicitées, elles sont sollicitées dans différentes instances, donc on a un peu l'effet de répétition sur la même chose. Pour travailler avec la région sur la question de la Brescop, puisque les agences urbanistes sont sollicitées pour appuyer la région, il y a quand même un maillon qui manque, c'est-à-dire que chaque EPCI intervient pour exprimer ses engagements, son projet, etc. Qui parle des échelles interterritoriales? Qui exprime les enjeux propres, par exemple, à l'Interscot d'Ille-et-Vilaine. Personne ne le fait. Et si on parle d'une armature territoriale à l'échelle de la région, elle va être définie de manière macro, mais en quoi elle sera pertinente à l'échelle du département, à l'échelle de chacun de nos territoires. Il y a là un maillon qui n'est pas pris en compte, et la place du département peut être vraiment intéressante là-dessus, avec cette initiative, parce qu'il peut aider l'ensemble des territoires à s'entendre sur des engagements partagés, sur des périmètres de cohérence des politiques, et sur une armature territoriale pertinente, et notamment par rapport à vos politiques. Voilà, M. Marquis.
Merci. Donc, dans toutes ces interventions, bon, je retiens qu'il y a beaucoup d'éléments que l'on peut prendre aussi comme des enrichissements et des contributions à une réflexion qui n'est pas achevée et qui vont pouvoir être intégrés, expertisés, validés ou non, mais qui, à ce stade-là, ont toute légitimité à s'exprimer, parce que c'est bien aussi pour cela que nous avons décidé de nous donner du temps pour un dossier de cette importance-là. Alors, juste pour que cette réflexion puisse être conduite sans incompréhension sur ce qu'est véritablement son objet, ou parfois sans rester sur quelques indications qui pourraient nous conduire à des conclusions trop rapides, je reprends juste très brièvement 4 ou 5 points. Monsieur Maillet, votre raisonnement, 5 000 logements sur le pays de Rennes, 2, ça fait 10 000, donc l'affaire est réglée, les 10 000 nouveaux habitants de l'Ille-et-Vilaine ont vocation à ça. C'est mathématiquement juste, sauf que vous oubliez un élément fondamental, c'est qu'un logement, c'est en général, quand on en fait 100, les 40 premiers servent juste à compenser la décohabitation et la diminution de la taille des ménages, et que statistiquement, on est plutôt sur un ratio un logement nouveau, 1,2, 1,3 habitants supplémentaires. Donc en appliquant ça aux 5 000 logements qui sont cités, ça fait plutôt 6 000 sur 11 000, et c'est une certaine constance par rapport à la répartition de la croissance démographique aujourd'hui, qui est à peu près de 45-55% sur ce territoire. Mais ce qui fait la différence, c'est que sur les 100 premiers logements que l'on construit, les 45 premiers servent uniquement à compenser des cohabitations et diminution de la taille des ménages. Alors Madame Le Gagne, vous avez tout à fait raison dans la mise en perspective du vieillissement, et vous nous rassurez aussi en nous disant que certes, seuls 17% aujourd'hui des personnes sont en situation de dépendance, mais un pourcentage, on l'applique toujours à une base. Ça, c'est un raisonnement cher à M. Maillet, votre voisin. Et si on l'a 17, si on l'applique à 100, ça fait 17, mais quand on l'appliquera à 200, ça fera 34. Et que, bien sûr, pour le département, c'est bien chaque situation qui nécessitera, bien sûr, des moyens adaptés et nécessairement en forte croissance, même si le ratio de 17% reste stable dans la durée, ce qui, à ce stade, est une hypothèse de travail. Alors, sur la question plus fondamentalement de la légitimité de notre démarche, bon, j'ai entendu Madame Le Callec un peu de réserve par rapport à tout cela, en se disant, mais chaque jour, il y a des situations difficiles, il y a des permanences, il y a une demande de place en EHPAD, dans une structure, bien sûr, bien évidemment, mais j'irais, tous les élus, quel que soit l'endroit où ils siègent, les élus qui siègent dans la plus petite commune, eh bien, ils prennent aussi du temps pour réfléchir à leur PLU, à leur PLUI. Dans les intercommunalités ou les pays, on réfléchit au SCOT, à de la prospective. À l'échelle régionale, on a aussi des réflexions prospectives. Alors, je voudrais quand même pas que le département soit au banc de la seule collectivité qui ne réfléchirait pas à ce que pourrait être son avenir. Je n'ai pas envie d'être le président de cette assemblée qui ne se poserait pas ce type de questions, alors que tous les élus, et à quelque endroit où ils le siègent, eh bien, ils font ces travaux de mise en perspective. Et l'un n'est absolument pas à opposer à l'autre, parce que c'est aussi en réfléchissant à l'avenir et en essayant de faire qu'il soit le plus souhaitable possible qu'on apporte durablement des réponses aux questions qui se posent aujourd'hui et que le fil de l'eau ne permettrait pas de traiter. Et puis, toute une série de restrictions, aurons-nous les moyens, quelle sera l'organisation, bien sûr, mais depuis des années, nous vivons dans l'incertitude. Incertitude sur les moyens, incertitude sur l'organisation territoriale et institutionnelle. Et est-ce que pour autant, depuis au moins 2007-2008, il aurait fallu rester l'arme au pied? Bien sûr que non. Nous devons avancer résolument toutes choses étant égales par ailleurs, et nous ferons aussi la preuve de notre capacité à nous adapter en permanence. Si le contexte, pour telle ou telle raison, indépendante ou non de notre volonté, eh bien, devait évoluer, on s'adaptera. Mais tout le travail que l'on aura conduit, eh bien, on remettra cette base de réflexion, elle aura le mérite d'exister et de nourrir, parce que les problèmes que nous posons, ce n'est pas un changement d'organisation territoriale qui suffira à les régler. Ça modifiera des responsabilités, mais les problématiques qui auront été identifiées, elles demeureront en toute hypothèse, et cela vaut bien évidemment pour la question des moyens. Mais je dirais que dans la prospective, avant de savoir ce que nous allons dépenser et combien, bien, c'est d'abord quelles doivent être les grandes priorités pour les ordonnancer, et après viendra bien sûr le temps pluriannuel ou budgétaire annuel, des choix, des arbitrages, mais pour cette année ils sont faits, et donc notre plan de marche est déjà largement engagé et en cours de déclinaison. Alors il y a eu des interrogations aussi sur les engagements par rapport au dispositif régional, les 38 propositions. Bien évidemment, le département s'engagera dans un certain nombre de domaines, mais exclusivement dans les domaines qui relèvent de ses compétences. C'est-à-dire, il y a des interrogations sur la démographie, sur le vieillissement, sur la cohésion sociale, sur la lutte contre la pauvreté. Ces domaines-là, nous serions défaillants si nous n'apportions pas de réponse. Et d'ailleurs, lors des différentes réunions, que ce soit de la COP Braise ou que ce soit de la conférence territoriale de l'action publique, le département d'Ille-et-Vilaine est proactif, a remis déjà des propositions que j'ai fait à cette CTAP, j'ai transmis une contribution, et les départements bretons, les trois autres collègues présidents de département, nous avons eu une rencontre des quatre présidents de département bretons et du président du conseil régional il y a une quinzaine de jours pour voir comment articuler nos actions, et étant entendu, chacun le faisant bien sûr dans le respect des compétences des uns et des autres, et ça vaut d'ailleurs aussi pour les échelons infradépartementaux, pays, communautés ou collectivités municipales. Et puis monsieur Benoît, merci pour l'hommage que vous rendez à l'organisation territoriale déployée par le conseil départemental. Alors je sais qu'en son temps, si on reprenait la minute des débats, cette organisation en agence avait suscité bien des commentaires, bien des critiques acerbes, mais dont acte, la démonstration est faite, je crois que c'était un choix pertinent et cohérent, et inversement, il me semble que nous aurions la même vivacité d'opposition si on proposait de tout reconcentrer sur le territoire, simplement du siège autour de Beauregard, mais je pense qu'il était aussi important. Mais la sagesse, c'est aussi de savoir constater finalement que tel ou tel choix, eh bien, il avait tout son sens dans cette logique de proximité, de déconcentration, de portage de nos politiques publiques. Donc, dans ce cadre-là, et en redisant que nécessairement, bien sûr, que notre prospective, elle doit être transversale et globalisante, mais elle sera surtout empreinte des domaines de compétences qui sont les nôtres. C'est bien évidemment dans ce cadre-là la mobilité. Nous sommes gestionnaires de premier plan de presque 5000 km de route. Le département a toute légitimité pour s'interroger, et les bons choix ne peuvent pas être simplement l'addition des choix des communautés, des pays. Il faut une vision départementale de ces organisations. Il faut une vision départementale de la distribution des solidarités humaines, des structures d'accueil, du handicap, des personnes. C'est bien dans ce cadre-là, mais nous ne pouvons pas faire l'économie de la vision globale pour dire ce qui nous semble souhaitable et porter pleinement ce qui relève de nos compétences, de nos politiques publiques. Alors peut-être qu'on le dit, on le redit, il faut sans doute encore le redire une nouvelle fois, mais c'est bien dans cette philosophie-là que notre document Ille-et-Vilaine 2035, sa marque, son ADN en propre qui le différenciera des autres exercices prospectifs, des autres échelons de collectivité, c'est qu'il sera porté d'abord par les compétences qui sont les nôtres, à la date d'aujourd'hui là aussi, parce que peut-être que dans 2 ans ce sera autre chose, mais on verra, et à chaque moment suffit sa peine. Mais continuons d'avancer et de regarder aussi loin que nous pouvons. Bien, alors ce rapport n'appelle pas de vote, c'est une communication. Oui, Madame Le Callennec.
Oui, merci Monsieur le Président. Pour nourrir la réflexion d'ici le 13 mai, est-ce qu'on pourrait avoir connaissance, sauf si c'est un document secret défense, des propositions que vous avez remises en CTAP au nom du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine?
Moi, vous y allez. J'écris au président de la région. J'ai encore un petit peu de latitude, de capacité, sans rendre public tous mes courriers. Et, non, le 13 mai, il y a une rencontre avec l'ensemble des présidents d'intercommunalité et des maires qui mandateront qui ils voudront s'ils ne peuvent pas être là ce jour-là. Et en toute confiance, et nous accueillerons toutes les personnes qui auront été mandatées à cette fin par le président ou la présidente de l'exécutif concerné. Mais sans surprise, les éléments où nous faisons des contributions, notamment par exemple sur les questions pauvreté, de dire que l'on puisse renforcer les compétences des départements dans les interfaces entre insertion et un certain nombre d'actions, par exemple de formation professionnelle, nous semble être une piste à approfondir si on veut aller vers de l'expérimentation ou de la différenciation. Voilà un exemple de sujet, mais à débattre, et il y en aura d'autres. Bien, alors nous allons pouvoir, après ce temps important, mais nous le voulions comme tel, et puis c'est les contributions des uns et des autres qui ont conduit à cela, pouvoir poursuivre l'examen de l'ordre du jour. Alors là, il s'agit